son hiver. Ainsi vont les si et les mais, pourtant ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie, animée par Irène Finkel avec Tiffaine Lemaine à la technique. Aujourd'hui, je reçois le dessinateur Pierre Bizalion, dit Bize. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Pierre, vous êtes né à Paris en 1955. Vous avez fait des études de communication. Vous commencez à gagner votre vie avec le dessin dès 1978. Et depuis, vous n'avez pas arrêté. Édition, pub, dessin en direct, animation scolaire, etc. Vous dites, je vous cite, « Travailleur immigré à Toulouse depuis 2001, vous êtes porté par la curiosité et l'envie de vous surprendre vous-même. » Mais avant d'en arriver là, Pierre, quel petit garçon étiez-vous ?
Oh, j'étais un petit garçon timide, très effacé. J'avais pas une grande gueule à l'école. J'essayais de me faire oublier de tout le monde.
Étiez fils unique ?
Non. Deux frères et une sœur.
Et vous étiez quel numéro ?
Ah, j'étais le 3.
D'accord.
C'est important ?
Oui. Ouais. C'est important parce que bien souvent, les petits derniers sont plus timides que les aînés.
Oui, je ne sais pas. Ça je ne saurais pas dire. C'est vrai que j'étais ballotté entre mon frère aîné et ma sœur, avec lesquels j'avais 1 an et 2 ans de différence. Donc, on était assez rapprochés. Et mon petit frère qui avait 5 ans de moins que moi. Et je ne sais pas si c'est ma nature, mais j'étais plus porté vers mon petit frère que vers mes frères et sœurs. Je pense qu'il me rejetait un peu. Voilà. J'ai toujours eu l'impression d'être un petit canard.
Un petit canard, un vilain Calimero.
Oui, il y avait de ça. Ouais. À la fois la timidité et puis une forte émotivité. J'étais très émotif étant petit.
Hypersensibilité.
Avec le recul, oui, je pourrais dire ça, mais elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Elle continue.
Vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Paris également ?
J'ai pas grandi uniquement à Paris, puisque mon père était commercial et il était nommé dans différents coins de France, plutôt dans le nord, alors que toute ma famille est originaire du sud-est. Mais moi, je n'ai pas eu la chance d'habiter le sud-est. Mes frères et sœurs sont nés, eux, à La Ciotat, dans le sud-est, sauf moi. Oh. Voilà, le complexe du petit canard.
C'est ça.
Et donc j'ai été ballotté, puisque j'ai tous les cinq ans on déménageait. Donc il suffisait que je me fasse des amis pour que je les perde.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ça doit être compliqué au niveau des amitiés, quand on est petit comme ça, de déménager autant.
Il y a de ça, mais d'un autre côté, ça ouvre l'esprit, le fait de changer de coin, d'avoir d'autres univers, d'autres cultures, parce que l'air de rien, la France, elle est variée. Je suis passé de Paris en Moselle, à côté de Metz, et puis après, j'ai été même en Suisse, et puis après, je suis revenu à Paris, et puis après, j'ai été à Lyon, et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'était une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser. Vous arrivez, vous êtes un gamin, vous sortez du CM1 et puis vous arrivez dans un lieu où au lieu de dire 90, on dit 90 et vous vous faites rigoler par les copains, ils se foutent de votre gueule parce que vous dites 90 et 70 alors qu'ils disent 70 et 90. Rigolo.
Le petit garçon timide que vous étiez, vous avez quand même réussi à chaque fois, vous l'avez dit, à déménager, à vous faire des nouvelles amitiés, des nouveaux camarades. Comment ça se passait par exemple ? Vous avez fait du sport, j'imagine, quand vous étiez enfant, vous avez recommencé dans un club à chaque fois ?
Alors, j'étais pas tellement dans des clubs sportifs. Hein. Les seuls sports que je faisais, c'était dans le cadre de l'école, dans le cadre scolaire.
D'accord.
Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, non.
Pas d'activité extrascolaire, pardon ?
Ben, quand j'habitais en Suisse, j'étais pas loin des pistes de ski. Donc, effectivement, oui, il y avait le ski. Mais sinon... Et puis, ma famille étant originaire de La Ciotat, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voile. et sur des bateaux et même après devenir moniteur de voile.
D'accord. Voilà. Le dessin, vous êtes tombé dedans tout petit ?
Pas du tout.
Ah d'accord, pas du tout. Vous n'étiez pas le petit garçon qui, dès qu'il a tenu un crayon, a commencé à faire des dessins partout ? Non, pas du tout.
Non, non. Quand je rencontre aujourd'hui mes collègues, ça m'amuse beaucoup parce qu'eux, ils voulaient faire ça depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, je griffonnais, effectivement. J'avais peut-être ce qu'on appelle un don, j'y crois pas, mais enfin, oui, j'aimais bien dessiner. Ça me vidait la tête. Pendant mes cours de maths, par exemple, je dessinais mon prof et voilà, ça me vidait la tête. Mais de là à me dire qu'un jour je pourrais en faire une profession, pas du tout, absolument pas. Même en dessin, j'ai publié sur mon site, hein, pas sur mon blog, mais sur mon site, mes notes en dessin. Je crois que j'avais 9 sur 20, quoi.
D'accord, d'accord. Donc, c'était pas... Justement, quel élève étiez-vous en dehors du dessin ?
Moyen.
Moyen.
Oui, oui. J'étais... Ben, sur ce même bulletin, on voit que j'étais nul partout, sauf en récitation.
Ça, c'est quelque chose qui vous plaisait ?
Oui, j'aimais bien. Je sais pas si... J'oscille toujours entre le visuel et l'auditif.
Je comprends.
Voilà.
Vous lisiez petit ?
Ah oui.
Beaucoup ?
Oui, beaucoup plus que maintenant.
Ah,
ouais.
C'est dommage.
Oui, oui, je dévorais et je me souviens, il y avait un couvre-feu à la maison, hein. On n'avait pas le droit de lire parce que le lendemain on allait au lycée ou à l'école et je me souviens avoir terminé des Jules Verne, des James Oliver Curwood, des Jack London... avec une lampe de poche sous mon lit, quoi. Et dès que j'entendais un bruit qui arrivait, je coupais la lampe de poche et je faisais semblant de dormir.
Mais justement, le Pierre petit garçon, alors vous rêviez de quoi pour votre vie d'adulte ? Vous aviez déjà imaginé un métier pour vous ?
Absolument pas.
Du tout ?
Non.
Pas de projection à ce niveau-là ?
Non. Non, c'est marrant. Je suis toujours admiratif des enfants qui disent « Ah, j'ai envie d'être vétérinaire, pompier... » Voilà. Il y en a peu qui disent j'ai envie d'être plombier ou égouttier. Mais j'ai toujours été admiratif de ça. Alors que moi, je ne savais pas. Moi, je prenais la vie, je surfais en fait. Hein. Je me laissais porter. Alors, je me suis rendu compte quand même que j'adorais l'actualité.
On en parlait chez vous, justement,
oui,
de la
voilà.
politique, vos parents parlaient.
J'ai eu la chance de grandir dans une famille entourée de livres.
Oui.
Et qui avait une double culture, une culture assez classique et puis quelque part un peu une culture moderne. Il y avait déjà des bouquins de dessin chez mes parents et je me souviens notamment d'un bouquin qui a été pour moi un choc, c'est un petit bouquin dessiné par Ciné qui s'appelait Les Chats. Et ça conciliait deux choses, c'était à la fois le texte et le dessin. Hein. Par exemple, chameau, hein, on voit un chat avec deux bosses. Hein. Chapelure, on voit un chat en train de s'éplucher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, j'étais fasciné par ça. Et puis, ils avaient aussi des dessins de Dubout, dont je suis un fan inconditionnel. Donc, j'étais quand même versé à cette culture. Et puis, à côté de ça, ils avaient des bouquins d'art, de classique, tout à fait classique, quoi. Donc ça éveille l'esprit. Et puis, on était abonnés à des revues de bande dessinée, alors que la bande dessinée, dans le milieu classique, était considérée comme... C'était pas de la littérature.
Bien sûr.
Mais si, mais... Je me souviens, mes frères, mon père, on se battait parce qu'on recevait le Spirou, le Tintin. Il y avait des histoires à suivre, on se battait pour
avoir la suite des
pour
histoires.
Avoir la suite en premier des histoires. Voilà. Donc il y avait quand même une culture un peu. Ma mère aussi était quelqu'un d'extrêmement. Elle avait un sens de l'humour et un sens d'observation absolument incroyable. Et d'une petite chose, elle arrivait à en faire quelque chose de drôle, quoi.
Donc c'était un petit peu une pièce de théâtre.
Oui, et puis ça ouvre l'esprit. Mon père était un peu plus rigoureux, beaucoup moins facétieux. Mais non, j'ai eu la chance, vraiment la chance. Et puis l'avenir m'a conforté dans cette idée. d'être né dans un milieu tout à fait favorisé avec une famille équilibrée, quoi.
Aimante. Quelle a été la place de la musique quand vous étiez enfant et avez-vous appris un instrument ?
Alors, la musique n'était pas tellement présente à la maison, en dehors de la musique classique, ou alors des classiques comme les Platters, des trucs comme ça. Mais j'adorais ça. Moi, j'étais bercé par la musique. Ouais. J'ai eu un choc émotionnel. Une fois, je me souviens, la première fois que j'ai entendu un morceau de musique en stéréo. Alors là, ça m'a fasciné. Je m'en souviendrai toujours. C'était chez un ami. La stéréo était très peu développée. Et là, j'écoute les concertos brandebourgeois de Bach. Et alors là, je suis pas tombé de ma chaise parce que j'étais pas assis, mais ça a été un choc émotionnel terrible. Et beaucoup plus tard, avant mes 20 ans, c'est mes cousins qui m'ont initié à d'autres formes de musique, beaucoup plus pop, plutôt blues et plutôt jazz.
Vous écoutez encore du jazz aujourd'hui ?
Ah oui.
C'est une musique que vous aimez ?
Je serais plutôt blues que jazz, mais j'écoute aussi du jazz, oui.
Est-ce qu'il y a un côté nostalgique chez Pierre ?
Oh, je pense que tout le monde... Je crois que la musique, c'est comme une empreinte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on écoute un morceau de musique qu'on a aimé, on se retrouve dans la situation où on était la première fois où on l'a entendu. Et donc, moi, j'ai une playlist et ça me permet, ça me permet peut-être de retourner dans cette enfance perdue, oui.
Donc pas d'apprentissage en tout cas en ce qui vous concerne d'un instrument.
Si, j'ai appris la guitare.
Ah, vous avez appris la guitare.
Mais tout seul, alors j'ai vite abandonné.
C'est vrai, ça c'est pas quelque chose...
Si, non, un peu plus tard, quand j'étais un peu plus vieux, parce qu'on s'arrête à 20 ans là. Hein.
Oui.
oui, j'ai fait une courte apparition dans un petit groupe.
Ah oui, voilà, c'est sympa, ouais. Ça.
Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais vraiment très mauvais. En fait, je me suis rendu compte que j'étais plus improvisateur. J'aimais plus créer qu'exécuter. Et c'est pour ça que ça a pas continué avec ce groupe, parce que eux ils faisaient que des reprises. Alors que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de créer, quoi.
Et d'ailleurs, on le verra sur toute la suite de votre vie. Vous avez toujours préféré créer de toute façon.
Improviser, oui. Mmh. Oui.
Une toute dernière question concernant justement cette première partie. Avez-vous reçu au sein de votre famille une éducation religieuse ?
Oui.
C'était quelque chose d'important pour vos parents ?
Alors, c'est très curieux cette histoire, parce que je pense que mes parents, ils avaient une religion qui était beaucoup plus, une foi qui était beaucoup plus dans la tradition. C'est parce que leurs parents avaient la foi, et ainsi de suite, et puis ils le faisaient. D'accord. Et j'ai eu une discussion avec mon père un jour qui allait à la messe régulièrement tous les dimanches. Et moi, à un moment donné, j'ai dit stop, quoi. J'ai été enfant de cœur. Hein.
Donc vous avez fait vos communions, baptême, communion, etc.
Et alors, j'étais enfant de cœur, mais j'étais un enfant de cœur. J'ai été enfant de cœur par intérêt. Parce que j'étais à côté de Metz, dans un petit village qui s'appelle Longeville-les-Metz. Et mes copains à la primaire, il y en avait certains qui étaient enfants de cœur. Et ils m'ont dit « Ah, tu devrais être enfant de cœur. » « Ah bon, pourquoi ?» Ben parce que, tu sais, quand tu fais les mariages ou les baptêmes, on te donne des sous. Et moi, je voulais m'acheter un pistolet à plomb. Alors je me suis dit « Ah ben, ça va être génial, je vais gagner des sous et je vais m'acheter un pistolet à plomb. » Mais ça, c'est un truc de gamin, hein, le pistolet à plomb. Maintenant, aujourd'hui, j'en rigole. Et en fait, pendant tout mon sacerdoce, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 3 mois, je n'ai jamais eu une pièce.
Oh là là, c'est triste.
Par contre, à chaque fois, j'avais droit à des dragées.
Et donc, vous n'avez jamais pu avoir votre pistolet ?
Alors, j'ai pas eu mon pistolet et j'ai perdu la foi.
Pierre, je vous propose tout de suite une première pause musicale. Je vous laisse nous annoncer votre choix et aussi nous dire pourquoi vous avez choisi de nous faire écouter ce morceau.
Alors, c'est un morceau de Frank Zappa, tiré d'un album qui s'appelle Le Grand Oiseau. Zappa est surtout connu quand il chante. Eh ben, non, pas du tout. Il a fait un album qui s'appelle Le Grand Oiseau, où c'est le combat entre les instruments à cordes et les instruments à vent. Et j'ai choisi ce morceau-là, qui s'appelle Blessed Relief, parce qu'il me rappelle une période de ma vie où j'étais moniteur de voile à La Ciotat, et je l'écoutais en boucle, et je suis encore capable de l'écouter en boucle. Et quand j'écoute ce morceau, il me fait penser à la fois à l'insouciance de la jeunesse et aux vagues sur la mer. Voilà.
On écoute. on coupe ce morceau qui est très très long parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à se dire, mais c'est vrai que c'est très agréable de l'écouter, Frank Zappa. Pierre, on a dit que vous êtes né en 1955, donc vous faites partie d'une génération qui a fait son service militaire.
Oui.
Oui, et vous l'avez fait où ?
Alors, j'étais pas tellement militariste, donc je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et puis, comme j'ai dit, j'étais un petit garçon effacé, pas tellement rebelle. J'avais pas franchement de conviction. Seul le truc, c'est la guerre, c'est mal, quoi. Bon, donc j'ai fait mon service militaire. J'ai eu la chance, après avoir fait des études de communication, d'avoir pu faire mon service militaire au service d'information et de relations publiques des armées.
D'accord.
Et donc, j'ai été extrêmement privilégié, puisque pendant un an, j'avais des bureaux en face de la rue Royale, et je faisais toutes les revues de presse. Enfin, on était une équipe. Je faisais un véritable travail de journaliste, puisque lisant toute la presse, il fallait rédiger des informations, des notes d'information qui étaient envoyées à tous les bâtiments de la Marine nationale. Donc
ça a été une année formatrice.
Ah, extraordinaire.
Et vous avez... Oui, allez-y, excusez-moi.
Je vous en prie. C'est extraordinaire parce que, bon, à part les classes effectivement... On en chie un peu, excusez-moi. Mais après, j'étais surinformé. Je lisais toute la presse hebdomadaire, la presse mensuelle, la presse quotidienne de tous les quotidiens régionaux qui étaient sur les façades maritimes. Et il fallait la lire d'une façon complète, quoi. J'écoutais la radio, je regardais la télévision. J'avais les telex de l'AFP, de la Société de Presse, donc une boulimie d'informations.
On était sous Giscard à cette époque.
Attendez, non, pas encore. Giscard et...
74.
Oui, c'est ça, exactement, oui.
D'accord.
Et aussi la satisfaction de pouvoir acheter des revues qui étaient interdites à l'enceinte de l'armée, c'est-à-dire que si on était pris, un appelé était pris à l'intérieur de la caserne avec Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné, Libération Rouge, il passait au trou, quoi. Alors que nous, on rentrait, on allait à un petit kiosque qui était à côté, on achetait les journaux, il y avait un contrat et on rentrait avec tous ces journaux devant les plantons qui ne nous disaient rien. Voilà. Et après, on épluchait tout ça, et dès qu'il y avait une information qui concernait l'armée ou la marine nationale, on la découpait, on la mettait dans un... Et puis, il y avait un travail de rédaction, donc avec des chroniques, avec des... Et c'est là que je me suis rendu compte que l'armée n'avait pas d'humour, parce que le 1er avril, j'ai fait un faux télex. Et à la fin de mon service, quand il y avait un téléx de l'AFP qui était important, on l'épinglait sur un mur. Et alors le service, il commençait tôt et il se terminait soit à midi ou soit on prenait à 1h et ça se terminait à 6h. Donc ça me donnait quand même pas mal de temps dans la journée. Et là, le 1er avril, je rédige une fausse dépêche de l'AFP en disant qu'il y avait un appelé qui avait été admis d'urgence à l'hôpital parce qu'à la suite d'un pari stupide, il avait voulu manger son chapeau, qu'on appelle le bâchi, et que le pompon était resté coincé dans sa gorge. Et donc, il était à l'hôpital militaire de Rennes, en soins intensifs et tout. Et je m'en vais. Et le lendemain matin, je me suis rendu compte que l'armée n'avait aucun humour. J'ai été convoqué et c'était un peu... j'ai failli me retrouver à l'isolement. Parallèlement, j'ai commencé à fixer mes idées en inventant des petites bandes dessinées. Pour faire rigoler les copains, les copines, et ainsi de suite.
Donc ça correspond donc à vos mois d'armée, ce début de bande dessinée.
Oui. Et il se trouve qu'ils m'ont dit, mais c'est vachement bien, tu devrais proposer ça à des journaux. Et alors j'ai proposé ça à plusieurs journaux, et puis il y a un journal qui m'a pris. Et j'étais encore à l'armée, et pendant 3 mois, j'ai fait une bande dessinée quotidienne dans un journal, en étant toujours à l'armée, alors que c'était complètement interdit de travailler à partir du moment où on était appelé. Et à la fin de l'armée, j'avais le choix soit de travailler dans une boîte de communication, ou soit de continuer, puisque le journal La Croix m'a dit bah, « ça plaît bien, est-ce que vous voulez continuer ?» Et là, j'ai tiré à pile ou face.
Ah, vraiment ?
Ben, oui, j'étais quand même... j'étais mal payé. Hein. Je faisais une bande dessinée quotidienne, 6 par semaine, j'étais payé 1500 francs à l'époque. Hein. 1500 francs, ça correspond aujourd'hui aux alentours de 200 euros, non ?
Je sais pas. Oui, mais je pense pas qu'on puisse...
Comparer. Alors, le SMIC, à l'époque, était à 1850. Oui, voilà, vous êtes contente.
Vous étiez en dessous.
J'étais en dessous du SMIC. Et je me suis dit, bon, bah, allez, bah, on tente ça. Et puis...
Donc, c'était pour La Croix.
C'était pour La Croix.
D'accord. Ouais. Et là, vous êtes resté longtemps ?
J'y suis resté 5 ans.
Ah, quand même.
Oui. Et à côté de ça, la presse catholique à l'époque était très vivace. Hein. Il y avait le groupe Fleurus, il y avait le groupe Bayard. Bayard, c'était La Croix. Fleurus, c'était les concurrents. Et puis, au fur et à mesure, j'ai travaillé pour cette presse-là. Quoi. J'ai travaillé pour un mensuel qui s'appelait Turbule, destiné aux adolescents. Et puis à Fleurus, ils ont vu mon dessin, ils ont dit « Ah, mais tu pourrais travailler pour Fripounet », qui était une revue, un hebdomadaire pour enfants, où j'ai fait beaucoup de dessins, des couvertures, des bandes dessinées. En fait, j'ai appris mon métier sur le tas.
J'ai eu Fripounet quand j'étais petite.
J'ai appris, sur le tas, parce qu'un jour, Fripounet m'a dit « Ah, bah tiens, ça serait bien que tu fasses une couverture ». J'avais jamais fait de dessin en couleur. Vous vous rendez compte ? Vous attaquez comme ça, là. Alors, il y a la pression. Et à chaque fois, j'ai été poussé par des commandes. C'est-à-dire que j'ai jamais refusé un boulot. Et à chaque fois, j'ai essayé de me surprendre moi-même, quoi. Voilà. Et depuis le 1er juillet 1978, je n'ai pas arrêté de dessiner. Et j'ai gagné entièrement ma vie avec le dessin.
Avec le dessin. Donc en fait, c'est pas vous qui avez choisi votre métier, mais c'est votre métier qui vous a choisi.
Oui, je pense qu'on s'est rencontrés tous les deux, quoi.
Voilà, ça a été une jolie rencontre. Mmh. Vous avez travaillé pendant 5 ans, donc pour le magazine La Croix. Mmh. Après,
le quotidien.
Le quotidien, pardon. Mmh. Après, il y a eu donc le magazine pour enfants. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ?
Alors, y a eu beaucoup de revues spécialisées. Hein. J'ai même oublié les noms. Mais je me souviens que j'avais travaillé pour une revue qui s'appelait Chien 2000, sur les chiens, qui était destinée aux éleveurs avant tout. Et c'est très drôle parce que je les ai retrouvés 10 ans ou 11 ans après. Donc je travaillais pour Fripounet, je travaillais pour La Croix et j'habitais Paris. Mais j'habitais dans un tout petit espace à Paris, oui.
Vous aviez des instructions pour les dessins ou vous pouviez vous-même donner libre cours à votre imagination ?
C'était pas un travail de commande, hein. Je faisais pas du dessin de presse, je proposais mes dessins, ils acceptaient ou ils acceptaient pas.
Ok.
Voilà. Alors, je n'ai jamais dessiné le pape avec une plume dans le cul, oui, c'est sûr, hein, à La Croix. Hein, il y a une certaine part d'autocensure. Mais en 5 ans de collaboration, il y a une bande dessinée qui m'ont refusé. Alors que plus tard, j'ai travaillé pour Sud-Ouest. Pendant 1 an, ils m'en ont refusé une dizaine. Quoi.
D'accord.
Donc, La Croix était très spécifique, c'est-à-dire qu'il y avait le côté religieux et puis à côté de ça, le côté informatif. Et c'est marrant, il y avait une double rédaction. Il y avait un rédacteur religieux et un rédacteur pour tout ce qui était information. Alors on s'est quittés et moi, parallèlement, Saturation de Paris. Et donc j'ai quitté Paris et je me suis installé, j'ai racheté une ruine dans le Lot-et-Garonne, et je me suis installé dans le Lot-et-Garonne.
Pourquoi le choix du Lot-et-Garonne ? Parce qu'on l'a vu.
Parce que c'était le moins cher.
C'était le moins cher. Parce qu'on a vu par rapport à cette première partie d'émission, par rapport aux villes où vous avez été, à aucun moment vous avez évoqué le Lot-et-Garonne. Donc vous ne connaissiez pas du tout.
Absolument pas.
Et comment c'est arrivé là, le Lot-et-Garonne?
C'est arrivé parce que j'ai cherché une maison. J'avais pas de gros moyens. Plutôt dans le sud-est, d'où ma famille est originaire. Et en fait, les seules maisons que je visitais, elles étaient tellement petites que j'aurais pu les mettre dans le coffre de ma voiture. Quoi. Donc, et par contre, dans le sud-ouest, y avait des trucs qui étaient à la portée de ma bourse. Quoi. Et c'était assez marrant parce que c'était un peu comme une aventure. Moi, j'avais l'impression que c'était la conquête de l'Ouest pour moi.
Oui, mais le fait de quitter quand même un salaire fixe ne vous a pas fait peur ?
J'ai pas quitté le salaire fixe. Je continuais à travailler malgré le fait qu'il n'y ait pas de fax, malgré le fait qu'il n'y ait pas Internet. Je continuais à travailler. J'ai continué à travailler pendant des années pour les journaux.
En leur envoyant les dessins ?
J'envoyais les dessins. Tout se passait pas. Alors, c'était fastidieux, parce qu'il fallait que je fasse une esquisse, une photocopie de l'esquisse que j'envoyais par la poste. À ce moment-là, je les appelais en disant « c'est bon ». Ils me disent « oui, ok, vous pouvez faire le crayonné, l'ancrage ». Je faisais l'ancrage, j'envoyais l'ancrage. Ils me renvoyaient ce qu'on appelle des bleus pour la mise en couleur. Enfin, ça prenait 3 semaines. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est hyper rapide. Ces contraintes ont quand même fait que j'ai perdu toutes mes collaborations avec la presse.
Oui, ben oui.
Et ça a été un peu compliqué. Et d'ailleurs, mes copains de l'époque, dont un chouette copain qui s'appelle T-News, qui a été assassiné à Charlie Hebdo, me l'avait dit quand je suis parti. Ils m'ont dit, mais c'est un suicide professionnel. Je dis, je m'en fous, je préfère récolter des patates dans le Lot-et-Garonne plutôt que d'être engoncé à Paris dans les voitures. Quoi.
Et puis dans un tout petit espace pour vivre, comme vous l'avez
évoqué
tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. Tandis que là, j'avais l'espace. Et il se trouve que... je parlais tout à l'heure, que j'étais un surfeur. Il se trouve que j'ai rencontré une personne et pendant 4-5 ans, je suis passé de la presse au textile, c'est-à-dire que j'ai fait des motifs pour t-shirt.
D'accord.
J'ai fait des motifs pour pyjama, pour chemise de nuit.
C'est un autre univers là.
Oui, à la fois oui et non, parce que c'était des motifs humoristiques, donc c'était à peu près le même principe. Il y avait un texte et un dessin. Et c'est la période où j'ai mieux gagné ma vie. Et ça me permettait d'avoir du temps pour pouvoir retaper ma baraque. Donc ce qui fait pendant pratiquement 4 ans, le matin je faisais mes dessins et l'après-midi je prenais la truelle et je montais des murs. Ouais.
Vous avez toujours cette maison ?
Oui.
Oui, vous avez gardé cette maison. Donc vous restez 4-5 ans, c'est ça, dans cette maison ?
Non, j'y suis resté 20 ans.
Ah, vous êtes resté 20 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à Toulouse en 2001 ?
Ça, c'est une question privée.
C'est une question privée, d'accord. Mais ça n'a rien à voir donc avec le professionnel.
Non.
On a dit en introduction que vous étiez, que vous aviez bien sûr fait du dessin comme on vient de l'évoquer, mais que vous étiez également, vous avez fait de la pub, vous avez fait du dessin en direct, de l'animation scolaire. Tout ça, j'aimerais qu'on l'évoque. Alors déjà, à commencer par la pub.
La pub, on est un exécutant, donc y a une personne qui est intéressée par votre style, il vous demande d'être un exécutant, quoi. Donc c'est des dessins publicitaires, humoristiques. Alors j'ai fait tout, j'ai fait des boîtes de petit déjeuner, j'ai fait, vous savez, des céréales. J'ai fait des dessins sur des élévateurs, j'ai fait des dessins aussi pour Renault, j'en ai fait quelques-uns pour EDF, j'ai travaillé beaucoup pour ces dernières années là, j'ai travaillé beaucoup pour Mallet qui est une grosse entreprise de BTP d'ici, où je faisais leur calendrier chaque année. Il y a tellement de choses, presque il faudrait que j'ai un papier pour me souvenir de tout ce que j'ai fait. Non, je veux revenir sur cette période où j'ai perdu toutes mes collaborations avec la presse et j'ai fait du textile. Et après, eh ben, il se trouve que j'ai acheté un fax. Et à partir du moment où j'ai eu un fax, j'ai renoué avec la presse. Parce qu'avec le fax, on pouvait envoyer des dessins. Et comme je travaillais pour la presse quotidienne, eh ben, j'ai envoyé beaucoup de dessins. Et c'est là où j'ai travaillé beaucoup pour Sud-Ouest. Je travaillais pour les éditions du Lot-et-Garonne et de Dordogne pour Sud-Ouest. Et pendant un an, j'ai fait un strip dans Sud-Ouest, c'est-à-dire une petite bande dessinée en 4 pages. J'ai fait aussi des croquis d'audience pour Sud-Ouest. Alors là, sur le tribunal et tout. C'était très rigolo, d'ailleurs, ma rencontre avec le rédacteur en chef. Il me dit, ah oui, vous savez dessiner? Je lui montre mes dessins avec des gros nez, plutôt humoristiques, hein, parce que j'ai jamais fait de formation de dessinateur en tant que tel. Hein. Et il me dit, ah, moi je serais intéressé par quelqu'un pour faire des croquis d'audience. Est-ce que vous êtes, ça vous dit? Bon, j'ai dit, bah oui, je veux bien essayer. Et puis j'ai fait ça pendant 3 ans quand même. C'était une sacrée expérience.
Oui, j'imagine, oui. Avec sûrement des choses qui ont dû vous marquer.
Ah oui, j'y allais pendant une journée, je faisais le maximum de dessins et après ils publiaient les dessins. C'était des assises, hein, des procès d'assises,
bien
hein,
sûr.
Donc meurtre,
des choses lourdes.
Attaque à main armée, voilà, c'est ça. Et moi, il me fallait 2 jours pour m'en remettre. Hein,
oui,
parce
bien
que,
sûr. Ouais, surtout, c'est... comme on l'a dit tout à l'heure, vous étiez en plus, vous êtes quelqu'un d'émotif. Mmh. Animation scolaire. Qu'est-ce que c'est animation scolaire pour
alors,
un dessinateur?
Alors, il y a très, 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 très longtemps, j'ai été contacté par des gens qui voulaient que je partage mon expérience. À l'époque, je faisais de la bande dessinée et donc j'ai rencontré un enseignant qui m'a dit « Ah, ça serait intéressant d'initier les enfants à la bande dessinée. » Et donc, ça m'a beaucoup plu parce que je considérais que j'aurais tellement aimé que quelqu'un vienne dans ma classe quand j'étais petit. Je pense que j'aurais gagné du temps. Et donc, j'y ai été pour leur faire gagner du temps et leur montrer comment on faisait. Et j'ai évolué énormément à ce niveau-là parce qu'au début, je voulais qu'ils dessinent comme moi. Alors que c'est impossible, il ne faut pas partir dans cet esprit. Maintenant, j'essaie de les accoucher un peu, leur dire « Mais si, vous êtes capable. Ah, je ne sais pas dessiner, monsieur. Mais si, tu sais dessiner. Il n'y a pas de problème. Tu sais écrire, tu sais dessiner. L'écriture est un dessin, donc il n'y a pas de raison que tu ne saches pas dessiner. Par contre, ce qu'il faut éduquer, c'est pas ta main, c'est ton regard. » Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années.
Vous pensez que quand on ne sait pas dessiner, c'est parce qu'on a pas le bon regard?
Oui, quelque part, on restitue ce qu'on voit. Et apprendre à regarder, c'est aussi important qu'apprendre à dessiner. Comment sont les choses? Ne serait-ce que les ombres. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de relief. Voilà. Observer les choses. Moi, pendant très longtemps, je n'avais aucune documentation, rien. C'est-à-dire que j'inventais mes personnages et tout, je dessinais une chaise, mais de mémoire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis idiot, il suffit que je regarde une chaise et j'essaye de la reproduire. Et une chaise, la chaise qu'il y a dans ce studio, elle est différente d'une chaise de campagne, elle est différente d'une chaise de PDG.
Bien sûr. Voilà. Je voudrais revenir sur vos interventions dans les écoles. Vous leur apprenez à dessiner, mais j'imagine qu'il y a des échanges, bien évidemment. Vous leur demandez de dessiner quoi? Est-ce que vous parlez avec eux de l'actualité? Est-ce que vous évoquez, bien sûr, la liberté d'expression?
Alors, depuis quelques années, je ne fais pratiquement plus de bande dessinée, donc mes interventions, c'est beaucoup plus sur le dessin de presse. Donc, quand je vais dans les écoles, je leur parle de mon travail, la façon dont réagit un dessinateur, comment il reçoit l'article, comment il essaye de le lire, le comprendre, d'essayer de trouver une idée là-dessus, hein, parce que dans le métier de dessinateur de presse, on ne part pas du dessin pour aller vers l'idée, c'est l'inverse. Hein. On part de l'idée pour aller vers le dessin. Et donc c'est ce schéma que j'essaye de leur expliquer. Et une fois qu'ils ont assimilé ça, je leur montre la façon dont on fait avec un crayon, une esquisse, et puis après on repasse, et puis positionner les textes, essayer de trouver une scénographie dans le dessin, l'air de rien, utiliser le texte, utiliser l'image, les expressions des personnages, voilà. Et souvent dans les écoles, bon, mes interventions ont lieu donc en deux parties. Première partie, on parle et on répond aux questions des élèves, notamment oui, sur la censure, l'autocensure, comment ça se passe. Et puis après, oui, j'essaye de les faire dessiner. Donc, soit sur un thème qui est imposé, en fonction des professeurs qui accueillent l'animation, ou soit sur un thème qui est libre et qui les concerne.
Vous avez évoqué très brièvement Charlie Hebdo tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on s'attarde sur Charlie Hebdo. Je veux simplement savoir si justement vos élèves qui sont... puisque ce sont des élèves qui sont très jeunes, vous en parlent spontanément.
Ça dépend de l'âge des élèves. Hein. Parce que maintenant, Charlie Hebdo, c'est il y a 5 ans, 6 ans maintenant.
Oui, voilà, oui. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ils sont jeunes.
Alors, quand j'interviens dans le secondaire, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, seconde, ils s'en souviennent, hein, parce que ça a été un traumatisme qui a touché tout l'ensemble de la France, je pense.
Bien sûr.
Par contre, en primaire ou un peu plus tôt, ils s'en souviennent pas, quoi. Ils ont déjà abandonné. Oui, ils en parlent spontanément et on peut avoir des réactions de certaines personnes en disant ouais, oh, mais c'est normal, ils l'ont bien cherché. Ça, on a ce genre de réaction. Oui. Alors, on essaie de leur expliquer qu'il y a une différence entre tirer avec des balles avec une Kalachnikov et dessiner avec un crayon, quoi. Hein. Ce que j'essaye de leur dire, c'est que on a le droit à la satire en France. Hein. On a le droit de plaisanter et de tout. Hein. C'est presque inscrit dans notre constitution. Hein. Et c'est sûr que certains dessins peuvent fâcher certaines personnes. Mais c'est pas pour ça qu'on doit prendre un flingue et tuer la personne qui a commis ça. Il y a un poids de mesure. Donc, moi, j'essaye d'expliquer mon travail. Hein. Il m'est arrivé, de temps en temps, de faire des dessins qui ne vont pas plaire à tout le monde. Hein. Ce n'est pas pour ça que... C'est très compliqué, mais quand on explique ça, je pense que les gens changent d'avis, parce que nous ne sommes pas, nous, dessinateurs des procureurs. Hein. Effectivement, un jour, on peut faire un dessin contre l'islamisme radical, mais un jour, on peut faire un dessin contre, je ne sais pas, moi, pareil, contre les intégristes juifs, hein, c'est pareil. Hein. Donc, on n'est pas engoncé dans une haine systématique d'une religion, d'une ethnie, et ainsi de suite, au contraire. Je pense que la plupart des dessinateurs, ils avaient plusieurs sujets. Ils ne faisaient pas que ça. Alors bon, c'est tombé sur Charlie Hebdo. Malheureusement, c'est tombé sur un bon ami. Ça a été un choc terrible. Hein. Ça a été un choc terrible pour nous. D'autant plus que Tinou, c'était un type charmant, adorable. Bon, on l'appelait Tinou parce que c'est vrai qu'il était assez incisif dans son dessin. Il était d'un talent absolument extraordinaire. Moi, je me souviens, quand on était jeune, justement, j'avais demandé conseil auprès de lui, qui était plus jeune que moi, quand il a fallu que je réalise mes premières couvertures pour Fripounet. Et il m'a montré des trucs, il m'a montré les techniques, et ainsi de suite. Il était fabuleusement doué. Et intellectuellement, c'était un type charmant. Charmant. Voilà.
Pierre, je vous propose une deuxième pause musicale. Je vous laisse, comme tout à l'heure, nous annoncer ce deuxième choix et également nous dire pourquoi.
Alors, je vais encore ressucer un vieux bonbon. je suis un inconditionnel du blues anglais, notamment de John Mayall. Et ça, c'est un morceau qui s'appelle « Killing Time ». C'est très swing, hein, c'est pas du rock agressif. Hein. Et j'aime bien ce swing et j'aime bien cet homme qui était extraordinaire. Voilà, il a 88 ans et je l'ai vu en concert deux fois ici à Toulouse. Voilà, ça, pour moi, c'est...
C'est un grand.
J'étais tout ému, j'ai même pas osé lui demander un autographe. Voilà.
Merci Pierre pour ce choix.
Oui, on s'est endormi.
Non, pas du tout. Pierre, vous avez un blog, bien sûr. En préparant cette émission, j'ai été y faire un tour et j'ai vu que vous avez été lauréat du concours international sous les pales des hélicos La Plage de Pamplonne, avec un dessin dont les auditeurs découvriront sur votre blog qui se nomme... Alors, le blog, c'est bizhumour.over, alors bizhumour.over-6blog.com. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce concours ?
Alors, il y a régulièrement des concours dans le monde entier. Hein, et il se trouve qu'il y a une association qui a été créée juste après l'attentat de Charlie Hebdo, qui s'appelle Le Crayon, qui font ils font des expositions régulièrement, et ils sont à Ramatuelle. Et à Ramatuelle, il y a un gros problème, c'est l'été, c'est les rotations des hélicoptères au-dessus de la ville. Il peut y avoir jusqu'à 95 rotations au-dessus de la ville. Alors, tout le monde a entendu le bruit d'un hélicoptère. Hein. Vous imaginez, vous êtes en vacances, vous êtes sur la plage et il y a 95 hélicoptères qui passent au-dessus de vous. Alors, il y a la pollution sonore, hein, il y a la pollution tout court, et ainsi de suite. Donc, la mairie de Ramatuelle a décidé, avec l'association Le Crayon, de faire un concours international. Et donc, il y a environ 200, ils ont reçu 250 dessins venus de 40 pays différents et qui ont été envoyés par 135 dessinateurs et dessinatrices du monde entier. Alors, moi j'y ai participé parce que je connais l'association Le Crayon. Ils m'avaient fait venir à Ramatuelle il y a 2 ans pour une exposition sur le vin. De dessins humoristiques sur le vin. Donc je les connais et ils font régulièrement des expositions thématiques auxquelles je participe régulièrement. Et donc je me suis dit, oui, c'est un concours intéressant. Il était en plus richement doté. Donc il se trouve que j'ai été le lauréat. Donc j'y ai été chercher mon prix et j'ai découvert les dessins des autres. Et je suis aujourd'hui encore étonné d'avoir été choisi.
Ouais. Donc, on l'a dit, vous avez un blog, vous avez un site internet également. Oui. Mmh. Alors, j'ai quand même envie de vous demander une journée type de Pierre Bizalion aujourd'hui, même si, on vient de l'évoquer, vous faites tellement de choses que chaque jour est certainement très différent. Ah oui. Je peux en avoir une, par exemple.
Une journée type. Bon, je m'en réveille tôt. Je me couche relativement tôt, hein, et je me réveille relativement tôt, oui, vers 5h30, 6h. Alors, première chose, je me fais un café.
J'attendais d'entendre, j'écoute la radio, non, c'est le café.
Non, bien sûr, j'écoute les informations à la radio, ça c'est sûr. Hein. En buvant mon premier café, je regarde sur Internet aussi les informations, parce qu'il y a aussi les images. Hein. L'avantage d'Internet, c'est que c'est de la radio avec des images. Je ne suis pas tellement adepte de regarder les informations à la télévision.
Oui, bien sûr.
Donc, je suis plus radio et Internet, donc avec des images ou presse-papier. Et souvent, j'ai un carnet de commandes parce que je travaille pour des journaux. Et donc, je vais prendre... Cette semaine a été un peu bousculée pour moi. Donc, je vais prendre celle de la semaine dernière où je travaille pour un syndicat infirmier qui s'appelle la Coordination Nationale Infirmière. Et ils font une revue. Et donc, j'avais la commande de 4 dessins pour cette revue. Et donc, le dessin de couverture et 3 articles à illustrer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lis les articles, j'essaye de les comprendre. Et puis, je fais une esquisse, j'envoie l'esquisse à la personne. Elle me dit c'est bon ou c'est pas bon, ou faut refaire, et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Ma journée type, c'est ça. Et puis, j'alimente mon blog, j'alimente mon Facebook, j'alimente mon Instagram. Tout ça, c'est chronophage. Hein.
Vous nous donnez les références de chaque...
Instagram, c'est bizdessin. Facebook, c'est bizdessinateur.
D'accord.
Et c'est ouvert à tout le monde, normalement.
C'est ouvert à tout le monde. Et là, on peut trouver tous vos dessins.
On ne trouve pas tous mes dessins, on trouve les dessins que je publie au jour le jour. Bon, j'ai pour règle de ne pas publier les dessins qui n'ont pas déjà été publiés, parce que je garde l'exclusivité pour les journaux qui me payent. Et sinon, je repasse des vieux dessins qui sont d'actualité. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai passé un dessin que j'ai fait en 2018 sur Nicolas Hulot. Et alors, c'est marrant parce que les gens ont l'impression que je l'ai fait hier, mais vous allez sur Bis Dessinateur et vous verrez le dessin de Nicolas
Hulot. Ça, je vais le regarder tout à l'heure, absolument. On a dit que vous étiez à Toulouse depuis 20 ans.
Oui.
Vous pouvez me dire quelques mots sur votre vie toulousaine et votre rapport à la ville?
Alors, quand je suis parti du Lot-et-Garonne, j'avais le choix entre Bordeaux et Toulouse. Je connaissais un peu Bordeaux et donc je suis venu à Toulouse.
Tout est dit en une phrase. Merci.
Je trouve que c'est une ville, extraordinaire. C'est une ville vivante. Il y a de l'espace autour de la Garonne. Il y a des lieux qui sont magnifiques. Les jardins à côté du musée des abattoirs sont extraordinaires. On a l'impression qu'on est au bout du monde quand on regarde la Garonne. On voit tous ces oiseaux. De l'autre côté, au Bazac, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai fait une animation au Bazac il n'y a pas longtemps et il y a une exposition que j'engage tout le monde à aller voir puisqu'elle se terminera début janvier. C'est sur la planète des dessinateurs et exposition qui est faite avec Cartooning for Peace, association à laquelle j'appartiens et pour laquelle j'interviens en milieu scolaire et dans les prisons. Donc, Toulouse est riche, Toulouse est, c'est une belle ville, c'est une ville encore accessible. J'ai l'avantage d'habiter près de la gare, donc en 5 minutes je suis au centre de Toulouse. J'adore l'ambiance qui se dégage, et puis Toulouse c'est la jeunesse. La chanson de Nougaro, c'est l'Espagne qui pousse sa corne, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que on est aussi dans une culture méridionale, méridionale, ça s'applique souvent au sud-est, mais enfin, une culture latine forte et plein d'histoires, quoi. Et puis, j'aime bien les briques roses, voilà.
Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, vous venez d'évoquer les prisons. Vous intervenez également en prison.
Oui.
Vous pouvez nous en dire deux mots?
La première fois où j'y étais, c'était à Seis, donc pas loin d'ici. J'avais une trouille, vous ne pouvez pas imaginer la trouille que j'avais. Et puis, au bout d'une heure, j'avais oublié que j'étais en prison. J'essaye d'apporter un peu de liberté à ces gens qui sont enfermés. J'ai un copain dessinateur qui ne veut plus y aller parce qu'il a dit « Comment on peut parler de liberté à des gens qui sont enfermés ?» Ben justement, on leur apporte une fenêtre, une ouverture sur le monde. Ils sont les dernières animations que j'ai faites à la fois à Seis et puis la toute dernière à Perpignan. Ils sont avides de culture. Ils sont des fois très doués pour le dessin. Et ils posent des questions justes, pertinentes. Voilà. Il peut y avoir justement des problèmes culturels. Charlie Hebdo revient des fois dans les discussions, mais on s'en explique. Il y a un gros problème dans les prisons, c'est la surpopulation, c'est le manque d'hygiène et auquel ils sont confrontés. Il y a une anecdote. Avant d'intervenir avec Cartooning for Peace, la DRAC m'avait contacté pour intervenir dans une prison, notamment à Seis. C'était bien avant. Et je leur avais répondu, non, je ne l'ai jamais fait. J'étais en pédiatrie, j'ai fait des interventions en pédiatrie, j'ai fait des interventions en dialyse, j'ai été dans les EHPAD pendant longtemps, pendant 5 ans. J'ai fait ça, mais je n'ai jamais été en prison. Je veux bien y aller, mais j'ai une seule condition, c'est que je puisse rentrer chez moi le soir. La DRAC m'a jamais répondu. Voilà. Et donc maintenant, régulièrement, depuis plusieurs années, j'interviens avec Cartooning for Peace dans les prisons.
Et, voilà. Vous regardez les dessins de vos consoeurs et de vos confrères ?
Ah bah oui, je fais que ça. Et d'ailleurs, ils me rendent malade parce que des fois, ils ont des idées terribles.
Un nom qui ressort parmi les autres ?
Ah, je peux pas un nom. Non, c'est pas possible parce que...
Une préférence, non ?
Non, je peux pas dire ça. J'aime tous les dessins. Il y a des dessins minimalistes qui sont excellents. Il y a des dessins qui sont très fouillés, qui sont excellents. Je suis attiré par le dessin qui communique et qui dit quelque chose. Et donc, toutes les techniques m'intéressent. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un style. Et donc, à chaque fois que je vois un autre dessinateur dessiner, j'ai envie de m'approprier son style, j'ai envie de le bouffer. J'ai une boulimie de regard, de dessin des autres et de la façon dont ils traitent un sujet. Vous mettez un sujet et vous le donnez à 10 dessinateurs, ils auront 10 façons de le traiter, bien sûr. Aussi pertinentes.
Si vous pouviez faire un vœu.
Ah, un vœu ? Oh bah c'est d'être meilleur que ce que je suis. Non, mais je continue dans l'égocentrisme. Tant qu'on y est. Oui. Bah, j'aimerais bien repousser encore plus mes limites et avoir toujours cette passion et cette curiosité. Il ne faut pas me la bouffer, celle-là.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bah, merci à vous, surtout, de m'avoir accueilli.
À bientôt. Au revoir, Pierre.
À bientôt.
C'est un bon enfant, mais chiche qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.